أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Alors nous étions arrivés et à ce sujet parlant réellement de la prophétie, la nécessité de la prophétie et aussi les preuves de la prophétie. Et nous avons essayé effectivement de parler de cette prophétie et nous étions arrivés en réalité la preuve réelle de la prophétie et nous avons parlé effectivement de la faveur divine. Al-Lutful Ilahi. Donc la faveur divine, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée des êtres humains dans le but de son adoration, il est sage de sa part. Donc, il est un comble de lui-même pour lui-même de nous faire envoyer effectivement des envoyés, des prophètes, afin qu'ils puissent venir nous guider dans nos différentes adorations. Et donc, nous avons parlé effectivement de cette adoration, et l'adoration ne peut se faire que dans un cadre bien précis et dans un règle bien précis. Et nous avons aussi parlé effectivement de les prophètes sont venus, sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement pour l'adoration, mais aussi pour construire une société saine, une société équilibrée, là où il n'y a pas d'oppression ou d'oppresseur. Donc effectivement, le prophète, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les envoie, il vient avec ces éléments-là. Un livre, souvent, ou des messagers avec des livres, comme le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam wa ali, et effectivement, nous avons essayé de parler de cela. Mais ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie ses prophètes, il les envoie avec, en réalité, cette faveur, pour nous faire une faveur, pour que nous puissions réellement profiter de cette faveur-là. La faveur est que il puisse nous envoyer des lois qui puissent nous garantir un avenir meilleur. Vous voyez, des lois qui puissent équilibrer d'abord notre vie quotidienne d'ici-bas et aussi un avenir meilleur pour nous, Inch'Allah, dans le monde ici-bas et dans l'au-delà. Et le fait que ces lois-là puissent garantir pour nous, effectivement, ça se dépasse en deux parties. Les faveurs qui puissent nous rapprocher de Dieu, ce sont les adorations, les recommandations de Dieu, etc. Mais il y a encore des faveurs qui puissent nous garantir réellement que les recommandations, une fois que nous respectons les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aussi nous éloigner de ces interdits, mes chers frères et sœurs, et deuxième devient alors le muqarrib, qui est en réalité, qui vient nous rapprocher en réalité de cela, pour nous dire que vous avez une garantie lorsque vous respectez strictement les engagements envers Dieu, la recommandation de Dieu, que vous puissiez avoir une félicité éternelle de la part d'Allah, une récompense aussi recherchée par l'être humain auprès de son Seigneur. Donc en réalité, il y a ces deux catégories. Il y a la faveur constructive qui se manifeste réellement dans les recommandations, je vais dire les prescriptions de l'islam. Il y a aussi cette faveur qui nous rapproche de Dieu et qui dit que réellement, qui devient une garantie pour nous, pour ceux qui respecteront ces engagements, pour ceux qui respecteront en réalité toutes ces recommandations, la prescription coranique, effectivement, si on peut s'exprimer ainsi, et ceux qui respecteront ces prescriptions et effectivement auront le paradis, et ceux qui refuseront, qui se rebelleront contre ces recommandations, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour eux l'enfer que le Seigneur nous en donne. C'était dans ce cadre-là que nous parlions en réalité de cette faveur de l'envoi et la philosophie de l'envoi des prophètes. Il y a aussi cet élément essentiel que Les téléspectateurs doivent beaucoup faire attention. Il y a encore d'autres personnes qui ont pu essayer de mettre en marche toute une campagne de dénigrement contre la prophétie. Cette campagne de dénigrement qui se trouve aujourd'hui malheureusement dans les rangs musulmans, dans les rangs de l'islam et en dehors de l'islam, contre les musulmans et contre les musulmans, entre les musulmans eux-mêmes, effectivement, c'est une campagne de dénigrement. C'est tout à fait à la place, c'est naturel que toute une société construite et avec une civilisation bien donnée, lorsqu'on leur envoie une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, il y a toute une campagne de dénigrement qui se manifeste. Ça s'est passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais parler de tous les prophètes comme si c'était une tradition dans ce bas monde. Et il y a d'autres personnes qui ont essayé de mettre même la prophétie, pas seulement la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la prophétie en cause, disant qu'en réalité, ils ont donné comme preuve pour dire qu'en réalité, et l'être humain, lorsque le prophète vient à nous, il n'y a pas seulement, il y a seulement que deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le prophète, lorsqu'il envoie, il nous envoie un message. Il nous envoie vraiment des prescriptions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit ces prescriptions vont avec l'intelligence et la raison de l'être humain, ou c'est deuxième lieu, c'est que la prescription elle vient à l'encontre de les enseignements ou la raison, les enseignements islamiques ou des prophétiques viennent à l'encontre de la raison. Vous voyez, ça dit ça ne vient pas en harmonie avec la raison, mais plutôt à l'encontre de la raison. Si la raison, ça dit que lorsque la prescription est diffusée par les prophètes aux êtres humains, soit la raison se retrouve là-dedans, il y a une harmonie entre la raison et ses prescriptions, ou soit il n'y a pas d'harmonie. S'il y a une harmonie, ça veut dire que la raison reconnaît réellement ce message. S'il reconnaît ce message, cela veut dire que le message n'est pas étrange ou étranger pour lui, donc ça ne nécessite pas l'envoi des prophètes. Voilà la première question. Mais si ça vient à l'encontre de la raison, donc ça sort du cadre humain, de quoi tout ce qui est intelligence et intelligible, ça sort de ce cadre-là, donc ça devient aussi des prescriptions seulement que pour les animaux, ou les robots. Donc en réalité, si la prophétie et l'enseignement prophétique va en harmonie avec la raison n'a pas besoin de la prophétie, ça veut dire que la raison elle-même peut comprendre qu'est-ce que l'être humain doit faire ou pas. Si ça vient à l'encontre, en réalité, l'être humain n'a pas besoin de ces enseignements parce que ça sort du cadre de l'humain, hein, dans le cadre de l'intelligibilité de l'être humain. Vous voyez, dans la responsabilité de l'être humain, et l'être humain doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec son intelligence et sa raison. Si ça dépasse en réalité, ça ne se colle pas avec la raison, l'être humain ne se retrouve pas là-dedans, doit bannir, doit refouler cette religion, et etc. Mais pour répondre à cette question, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre que et ceux qui ont essayé de poser cet équivoque, ils ont essayé de poser soit en deux branches, c'est-à-dire que soit ça va avec la raison ou ça ne va pas avec la raison. Vous voyez, seulement qu'en deux branches. Donc pour répondre en cela, mes chers frères et sœurs, à cette réalité équivoque, il faut comprendre qu'il y a encore une troisième hypothèse. Une troisième hypothèse existe. Et cette troisième hypothèse dit que peut-être que les enseignements que le prophète nous amène pourraient quand même dépasser l'entendement de l'être humain. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Il ne suffit pas de diviser soit la division, soit en deux, hein, les composants de la division soit en deux. Premier, soit ça va avec la raison, deuxième, ça ne va pas avec la raison. Si ça va avec la raison ne se retrouve pas là-dedans, elle peut se confier ou se manifester seule pour cadrer la vie de l'être humain. L'être humain n'a pas besoin de la raison avec de la religion. Donc l'être humain a besoin seulement que la raison. Et puisque tout ce que la religion où les prophètes viennent nous enseigner, il y a une harmonie directe entre ces enseignements et l'intelligence de l'être humain. Donc l'intelligence de l'être humain peut gérer ce monde. Je vous dirais que non, l'intelligence de l'être humain ne peut pas gérer ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, il y a des choses qui se trouvent dans la religion qui dépassent en réalité l'entendement de l'être humain. Regardez, avant de parler de la prophétie, Hein? Avant de parler des prophètes, avant de parler de l'enseignement islamique, il y a des choses dans la création de l'être humain lui-même qui dépassent son propre entendement. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin d'un plus qui serait peut-être des enseignements qui dépassent réellement l'entendement de l'être humain. Vous voyez, les enseignements qui se trouvent par les prophètes dans les livres coraniques, le Coran et le Hadith de la tradition du prophète et sa sainte famille, vous allez trouver des enseignements qui dépassent l'entendement de l'être humain. Je prends un exemple tout court. Par exemple, nous pouvons prendre le cas de l'ablution. L'ablution dépasse l'entendement de l'être humain. On vous demande, même si vous l'avez 1000 fois, 5000 fois, si vous voulez exercer une prière, accomplir une prière, il faut d'abord faire tes ablutions. Donc ça dépasse. Vous demandez à l'être humain d'expliquer cela, il ne pourrait pas expliquer en réalité. Par contre, il y a des adorations, oui, que nous pouvons comprendre certaines philosophies de ces adorations. Mais en réalité, je vous parle de l'ablution, vous ne pouvez pas comprendre la philosophie de l'ablution. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut comprendre cela. Cela est au-delà, ça dépasse l'intelligence et la raison de l'être humain. Le cas des prières, le 2 rakat, 4 rakat, 3 rakat, 4 rakat, etc. Mes chers frères et sœurs, cela dépense l'entendement de l'être humain. Pourquoi la prière de l'aube, hein, qu'on doit faire 2 rakat, la prière de zuhr qu'on doit faire réellement à 4 rakat, mes chers frères et sœurs, tout cela dépasse l'entendement de l'être humain. Donc ce n'est pas tout ce que la raison ne comprend pas, ne doit pas faire partie de la raison. C'est vrai que lorsque l'explication de ce qui dépasse l'entendement de l'être humain, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala explique réellement, nous donne la raison et la philosophie de ces actes-là, vous verrez que ça se colle avec la raison de l'être humain. Mais ici-là, nous ne sommes pas condamnés, seulement que ça soit en harmonie avec la raison ou pas, que nous puissions accepter la raison et rejeter la raison et rejeter la prophétie et le prophète, ou si ça ne colle pas avec la religion, que nous ne pouvons pas que nous rejetons aussi également la prophétie et se fier à nous-mêmes. Non, ce n'est pas le cas. Il y a un troisième cas, et ce troisième cas dit il y a des enseignements dans la religion qui dépassent l'entendement de l'être humain. Il y a aussi, en réalité, d'autre côté, lorsqu'on regarde encore, il y a d'autres choses qui ont essayé de poser un équivoque. Et l'équivoque qui dit que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé. Il nous a créé cet environnement, le soleil, la succession du jour et la nuit. Effectivement, cela s'est passé. Mais en réalité, pourquoi alors, aujourd'hui, si nous voulons remercier Dieu, il nous incombe de remercier Dieu, effectivement. Maintenant, si nous voulons remercier Dieu, nous n'avons pas besoin d'une autre personne comme nous. Hein? Un prophète qui est un être humain comme nous, nous pouvons déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala directement. Pourquoi alors l'intervention d'une autre personne, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, on vous dira que pour dire que dans le cadre du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous guider, vous faire comprendre réellement, la formule que vous devrez utiliser pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait un égarement. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre le cas de mécréants, hein, mécois, qui disaient qu'avec ça, ils croyaient réellement à l'existence d'un Dieu. Mais l'adoration était pour eux comme une formule de remerciement, parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un, hein, qui puisse réellement les guider pour dire que voilà la formule vraie qui est recherchée, que nous pouvons utiliser en réalité pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est très important, mes chers frères et sœurs, si nous essayons, avec les éléments que nous avons, pour que nous puissions réellement remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons toujours dans ce cadre-là. Mais il faut comprendre que le fait d'envoyer les prophètes ne se limite pas aussi au remerciement adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça dépasse tout ça. Les prophètes n'ont pas seulement le rôle de venir nous enseigner comment il faut adorer Dieu, comment il faut faire des zikres, comment il faut... Non, ça dépasse cela, parce que le zikre n'est pas seulement limité à dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ou wa la hawla wa la quwwata illa... Non, le zikre ne se... wa la quwwata illa billah, le zikre ne se limite pas seulement qu'à cela. il y a le vrai zikr, c'est lorsqu'on respecte les engagements et les prescriptions de l'islam. Et c'est ce que le Coran nous vient nous proposer, c'est ce que le prophète vient nous proposer, une société assainie, une société équilibrée et un avenir meilleur qui puisse nous donner plus d'espoir et aussi vraiment que nous soyons réellement guidés vers la félicité éternelle. Et c'est ce que le prophète essaie de nous dire, que « Inni qad ji'tukum bi khayr dunya wal akhira » J'ai envoyé pour vous ce qui est meilleur pour vous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cela veut dire que quoi? L'islam ne se limite pas seulement au dhikr qui est lié aussi directement souvent à l'au-delà, parce qu'on parle de la récompense, etc. Mais l'islam aussi est lié à ce bas monde-là et c'est un point très important. L'islam n'est pas seulement comme les mécréants, comme ils ont pu faire les Quraysh, comme ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec des idoles. Et vous voyez, comme il yuqarribuna ila Allah zulfa, il disait que enfin que ces idoles nous rapprochent de Dieu, le Très-Haut. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont, ils avaient un manque de formule là, un manque vraiment de méthodologie pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans le christianisme, dans le judaïsme seulement que le samedi est choisi comme étant un moment d'adoration, hein, et de culte. Dans le christianisme, et le dimanche a été choisi comme étant un moment de culte et d'adoration. Non, l'islam nous propose une vie pleine d'adoration. L'adoration, c'est que nous puissions respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, notre devoir devant le semblable qui est en face de nous, la famille, l'environnement, envers Dieu. Donc l'islam n'est qu'un système total proposé par le prophète Mohammed, par le prophète à l'humanité, afin de mettre l'humanité en équilibre. Donc mes chers frères et sœurs, comprenez bien que tous ceux qui essaient de mettre ces équivoques en place, réalité, ces équivoques ne sont pas aussi très solides. Et il y a aussi d'autres enseignés ici, en ce qui concerne la religion musulmane, ils ont essayé de poser des équivoques qui ne sont pas tellement fondés, mais nous allons essayer de vous relater ces équivoques. Ces équivoques étaient basés sur la sagesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein de sagesse, il est très sage. Donc en cela, et il voit que c'est tout à fait vilain, hein, c'est tout à fait inconcevable que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous demander, une fois que nous voulons prier, de se diriger vers la Kaaba, que nous voulons prier, faire le pèlerinage à la Mecque, de faire le tour de la Kaaba cette fois, ou je ne sais pas, aller jeter les pierres, et aussi d'embrasser même la pierre aussi qui est très sourde, la pierre sourde qui ne parle pas, et d'embrasser aussi, égorger en masse les animaux. Donc en réalité, quelqu'un qui est là, il va essayer de poser que c'est tout à fait vil, c'est inconcevable, ce n'est pas appréciable, c'est vilain, hein, de voir ainsi l'être humain en train de se comporter et ainsi. C'est comme s'il voulait dire que en réalité, ce sont des actes que l'être humain lui-même a essayé d'inventer parce que ça n'a rien à voir avec la sagesse divine. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle des actes en islam, il y a toute une philosophie, tout un enseignement derrière. Il ne faudrait pas regarder de façon apparente l'acte. Vous voyez, c'est la philosophie recherchée qui est plus importante. Le fait de faire face à la direction de la Kaaba au moment de la prière, cela fait revenir, hein, l'unité et l'union des musulmans. C'est de célébrer cette union-là, dans ce cadre-là. Le monde entier se dirige vers un endroit et ça se... vraiment c'est à remercier ou aussi à féliciter qu'il puisse manifester et donner comme enseignement aux êtres humains, aux musulmans, que en réalité tout cela n'est rien d'autre que la manifestation ou la célébration de l'union et l'unité des musulmans. Et aussi effectivement, vous pouvez trouver aussi que aller jeter des pierres à la Mecque, ceux qui ont participé à la Mecque, effectivement, Rami ou Jamarat, c'est là où on va jeter les pierres contre Satan. Mais ici, ce n'est pas Satan qui est en face. D'abord, nous essayons de commémorer l'acte de notre prophète Ibrahim, le père des monothéistes. On essaie de commémorer cela, mais au-delà de cela, de cette commémoration, il y a un enseignement. Ce n'est pas de jeter la pierre contre le Satan physique, mais notre Satan intérieur, notre volonté qui nous guide, hein, l'instinct qui nous guide vers le péché, et qui est contrôlé souvent, dominé par le Satan. Et cet instinct d'abord qu'il faut faire face, il ne suffit, c'est vrai, de jeter, c'est de commémorer l'acte d'Adam alayhi salam, mais d'Ibrahim alayhi salam, mais de l'autre côté, effectivement, ici là, c'est de commémorer, mes chers frères et sœurs, l'être humain lui-même, son essence, du fait de renoncer, hein, aux tentatives sataniques, mes chers frères et sœurs. Et voilà à peu près les équivoques qui ont été posés contre, hein, ces enseignements et contre les prophètes, mais des équivoques qui ne sont pas aussi soudés, qui ne sont pas fondés. Et l'être humain doit essayer toujours d'abord de se plier aux enseignements coraniques et aussi aux enseignements prophétiques. Au-delà de cela, mes chers frères et sœurs, de connaître la philosophie de ces actes-là. Et Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention. Et Inch'Allah, nous allons essayer de continuer dans ce cadre-là pour vous parler de le miracle de façon générale de tous les prophètes, Inch'Allah, dans la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.